RFI Matin, suite F1, dans 18 minutes, un nouveau journal et le point sur l'immense manifestation d'hier de l'opposition à Istanbul, en Turquie. On parlera aussi de la Birmanie et de cette annonce de la rébellion contre la junte. Après le séisme qui a fait plus de 1600 morts, les groupes armés annoncent une trêve pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Et tout de suite, les sports. Avec vous, Antoine Grenier, le football africain qui laisse de la place à ses jeunes ce dimanche avec la CAN U17 qui démarre au Maroc.
Match d'ouverture, Maroc-Ouganda au stade El Béchir de Mohamedia face à des Ougandais qui ont dominé leur qualification dans la zone centre-est. Les Marocains rêvent de succéder au Sénégal, titré en 2023 à leurs dépens. Une compétition qui fait déjà office de répétition 9 mois avant l'organisation de la CAN et 5 ans avant la Coupe du Monde. François Humfer Kataji.
Pour le Maroc, cette CAN U17 est une occasion de répéter ses gammes avant l'organisation de la CAN 2025 qui débutera au mois de décembre prochain. La compétition des cadets présente toutefois un format différent, 16 équipes seulement contre 24 pour la grande sœur. En outre, les 4 stades de taille moyenne choisis pour ce tournoi U17 ne sont pas ceux qui recevront les équipes seniors cet hiver. Qu'importe, Nabil Baha, le coach de la sélection marocaine U17, finaliste il y a 2 ans, compte bien montrer la voie de la victoire aux aînés.
Il n'y a pas d'adversaire qu'on craint. Notre plus grand adversaire, nous, c'est notre équipe. Aujourd'hui, on a préparé nos joueurs de la meilleure façon. Moi, quand je vois mes joueurs, comment ils sont, la confiance que j'ai en eux, aucune équipe ne me fait peur.
Il sait qu'il pourra compter sur la ferveur, dit-il, du public marocain. Le match d'ouverture se tient ce soir à Mohamedia, en pleine célébration de l'Aïd. Les Lionceaux de l'Atlas seront opposés à une équipe ougandaise qui, elle non plus, ne cache pas ses ambitions. L'entraîneur Brian Seyondo.
Notre objectif est d'être parmi les meilleures équipes du continent et du monde, d'être exemplaires sur le terrain et en dehors, représenter notre pays de la meilleure façon. La tâche sera difficile face au Maroc, qui est une équipe redoutable, mais nous sommes ambitieux et nous voulons performer.
En 2021, le Maroc n'avait pas pu accueillir la compétition en raison de la pandémie de Covid-19. Cette fois, il compte bien garder la coupe à la maison. Une victoire finale synonyme de qualification pour la Coupe du Monde. François Humfer Kataji, Casablanca, RFI.
Maroc-Ouganda, coup d'envoi, 22h, temps universel.
Le Maroc qui accueille donc la CAN U17 avant d'organiser la CAN 2025 et même des matchs de la Coupe du Monde 2030, mais ça ne lui suffit pas.
Le royaume chérifien a aussi l'intention d'accueillir la Coupe du Monde féminine 2035. C'est ce qu'a révélé le président de la Fédération espagnole de football, Rafael Lozano, annonçant que les 3 pays organisateurs du Mondial 2030, l'Espagne, le Portugal et le Maroc, veulent ainsi promouvoir le sport féminin en organisant son événement le plus important.
Chez les dames, justement, la CAN féminine, elle, démarre dans 3 mois et le Sénégal accélère sa préparation.
Les Lions affronteront le Ghana en amical les 5 et 8 avril prochains. 2 matchs très importants pour lesquels le sélectionneur Mame Moussa Cissé a convoqué 3 joueuses, parmi elles 3 expatriés dont le retour était très attendu, Wani Johnson-Sambou.
Il s'agit de Mbayang Sow, défenseur de l'Olympique de Marseille, des attaquantes Cor Kafal du Stade Malherbe de Caen et Abi Baldé de l'ES Poitiers. Les 2 premières avaient manqué les derniers matchs respectivement sur blessures et problèmes administratifs et la dernière en raison de son transfert récent. Mame Moussa Cissé, sélectionneur du Sénégal.
C'est des joueuses cadres de l'équipe qui ont joué la dernière Coupe d'Afrique, des joueuses qui connaissent ce que nous faisons dans le groupe. Elles vont venir pour apporter leur expérience et leur vécu de ce qu'elles ont appris en Europe.
Ces 3 joueuses font partie de la 12aine d'expatriés convoqués pour les 2 matchs de préparation à la CAN 2024 face au Ghana, un adversaire idéal pour les ambitions de l'équipe.
Jouer le Ghana aujourd'hui est une aubaine pour nous, parce que c'est une équipe qui a beaucoup de qualités, une équipe qui a un statut et qui va venir nous apporter un peu ce dont on a besoin en termes de problèmes, en termes de position, en termes d'intensité.
Pour rappel, le Sénégal évoluera dans la poule A en compagnie du pays hôte, le Maroc, de la Zambie et de la RD Congo. Wani Johnson-Sambou, Dakar, RFI.
Et on termine avec le cyclisme. Antoine et Binyam Guirmay en lice pour la victoire sur Gent Wevelgem.
L'Érythréen s'aligne sur la classique qui devrait couronner un sprinter. Maillot vert du dernier Tour de France. Il fera donc logiquement partie des favoris, d'autant que les 2 ogres, Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar, sont absents.
Merci Antoine Grenier. Bonne journée. 9h46 à Paris. Vous voyez, c'est le changement d'heure qui me perturbe. Sur RFI, on prend un peu d'avance sur le 1er avril dans 2 jours et sur une cocasse tradition répandue dans de nombreux pays, celle de faire des blagues et des canulars, les fameux poissons d'avril. Comme on les appelle dans les pays francophones, la coutume prend des formes variées selon les cultures et notre tour du monde des correspondants vous propose ce matin 4 exemples dans 4 pays, à commencer par le Royaume-Uni. Ici, on se prépare donc pour le April Fool. Fool's Day, alors que les Britanniques sont bien connus pour leur humour pince sans rire, parfois absurde. Emeline Vin, impossible pour eux de passer à côté de cette occasion.
En Écosse, on chasse le coucou le 1er avril. Pas littéralement, hein. En fait, on envoie un jeune crédule porter un message secret à quelqu'un dans l'enveloppe pour ce quelqu'un. Ne souriez pas et envoyez cette personne chasser le coucou à quelques kilomètres, c'est-à-dire porter un nouveau message, un nouveau destinataire et ainsi de suite jusqu'à ce que le pauvre naïf comprenne qu'on lui joue un tour et qu'il est victime du Hunt the Gawk. Mais ce sont surtout les médias qui s'en donnent à cœur joie au Royaume-Uni avec des canulars de qualité, un documentaire montrant des pingouins prendre leur envol, un récit de voyage sur une île paradisiaque totalement fictive. L'indétrônable, ça reste ce reportage de la BBC en 1957 montrant la récolte des spaghettis en Suisse. Le diffuseur public avait reçu des centaines de lettres de téléspectateurs très intéressés par la méthode pour faire pousser des pâtes dans leur jardin.
Emeline Vin à Londres et cap sur un autre pays connu pour son humour, la Belgique, où les poissons d'avril sont aussi l'occasion de canulars, de fausses infos humoristiques. Une tradition qui vise avant tout à faire sourire, même si elle peut aussi être grinçante, Pierre Benazet.
Il y a d'abord le poisson d'avril classique, l'année où le footballeur Sergio Conceição a craché sur un joueur lors d'un match du Standard de Liège. Le journal La Dernière Heure a annoncé qu'il était condamné à un travail d'intérêt général, aller soigner des lamas dans un zoo. Pour rester dans le football, l'équipe nationale belge annonce envisager un jour, en hommage à Gaston Lagaffe, de remplacer son maillot rouge par un col roulé vert. Les politiciens eux-mêmes se prêtent au jeu lorsque deux vice-premiers ministres donnent une fausse interview à la RTBF pour annoncer que le 1er mai ne sera plus une fête chômée puisque de toute façon, eux sont tenus d'aller au défilé. Mais depuis très longtemps, les bisbilles entre flamands et francophones sont au menu des poissons d'avril. Par exemple, l'annonce que les conversations téléphoniques en Flandre seront automatiquement coupées lorsqu'on parlera français. Et ces poissons-là peuvent sortir du 1er avril, car le plus gros de tous a eu lieu un 13 décembre en 2006, lorsque la RTBF rapporte que la Flandre vient de déclarer son indépendance, un canular qui a provoqué une indignation certaine.
Pierre Benazet à Bruxelles, du côté du Brésil, le 1er avril est une tradition aux racines anciennes. Elle remonterait à 1828 avec la publication d'un journal, Sarah Cozzolino.
Oui, il s'agit du journal A Mentira, Le Mensonge, qui a publié la première blague du 1er avril en annonçant la mort de celui qui était à l'époque l'empereur du Brésil, Dom Pedro Ier. Annonce démentie le lendemain. Le 1er avril est depuis connu comme le Dia da Mentira, le jour du mensonge, où les blagues et fausses nouvelles sont racontées dans les familles, les médias ou dans les publicités. Mais il y a un autre fait intéressant autour de cette date. Elle fait polémique pour dater le début de la dictature militaire au Brésil, en place entre 1964 et 1985. Car la date officielle choisie par les militaires est celle du 31 mars, mais la date réelle, selon les historiens, serait bien le 1er avril. Même s'il était déjà question de rébellion militaire le 31 mars, ce n'est que le lendemain que les forces militaires sont entrées dans Rio. Mais faire un coup d'État le jour du 1er avril manquait de sérieux, selon les militaires.
Sarah Cozzolino au Brésil, et puis une exception pour terminer en Espagne et dans toute l'Amérique latine hispanophone. On fait bien des blagues et des canulars une fois par an, pas le 1er avril, mais le 28 décembre, connu comme le jour des Saints Innocents. À l'origine de cette tradition joviale et légère, se trouve pourtant un événement historique sombre et tragique, comme nous le rappelle au Chili Naila de Rouanet.
Dans le christianisme, le jour des saints innocents commémore le massacre des enfants de moins de 2 ans nés à Bethléem. Cette tuerie avait été ordonnée par le roi Hérode Ier pour éliminer le nouveau-né Jésus de Nazareth, qu'il considérait comme un potentiel rival. Mais alors comment est-ce que cet épisode si grave s'est transformé en une célébration drôle et burlesque? Il n'y a pas d'explication très claire, mais certains historiens estiment qu'au fil des années, c'est le mélange des rites païens et chrétiens qui aurait donné naissance à cette tradition. Au Chili, le 28 décembre, il est de coutume de remplacer le sel par du sucre et vice-versa, et d'attendre la réaction des malheureux qui assaisonneront leur plat. Ou encore, au bureau, coller du ruban adhésif sur le capteur optique de la souris et voir s'acharner son collègue pour la faire fonctionner. Même la candidate de la droite traditionnelle à l'élection présidentielle de 2025 se prend au jeu chaque année. Sur ses réseaux sociaux, elle publie des messages pour berner ses abonnés, annonçant par exemple qu'elle s'éteint les cheveux en verre.
Naila de Rouanet et notre tour du monde des correspondants à retrouver sur RFI.fr. 7h52 à Bamako, dans l'Afrique en marche ce matin, une initiative face à la pollution et l'invasion de déchets plastiques au Mali. Deux jeunes entrepreneuses, Sabou Doumbia et Kumba Diakité, ont décidé de transformer et de valoriser ces déchets, chacune à leur façon. L'une crée ses meubles, l'autre fabrique des ustensiles. Et c'est Frédéric Gara qui nous en parle.
Je suis Kumba Diakité, je suis la fondatrice de l'entreprise BiRecycle.
Bonjour, moi je suis Sabou Doumbia, j'ai 27 ans. Je suis ingénieure télécom de formation et entrepreneur social et développement, principalement dans le domaine du recyclage des déchets plastiques.
Face à la pollution plastique, Kumba Diakité et Sabou Doumbia, chacune dans leur structure, ne baissent pas les bras. Ces deux jeunes entrepreneuses à Bamako ont décidé de faire des sachets noirs qui jonchent le sol ou des pneus usagés jetés dans les caniveaux, des objets recyclés, des objets de valeur. Au sein de son entreprise, BiRecycle, Kumba Diakité transforme depuis 2018 des roues usées en caoutchouc en meubles élégamment décorés avec du wax ou bien du bogolan. Kumba Diakité.
Je me suis tournée vers le recyclage parce que j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses. J'ai fait une formation sur les enjeux de développement durable. Du coup, après cette formation, ça m'a donné envie de me tourner vers le recyclage. Nous revalorisons les pneus usagés. Nous faisons des mobiliers avec des chaises d'intérieur et d'extérieur, des poufs, des tables basses, des jouets pour les espaces de jeu pour les enfants. Nous faisons tout avec les pneus usagés.
À peu près 300 pneus recyclés par an, un chiffre qui peut paraître modeste au regard des déchets produits au Mali. Mais Kumba organise également des ateliers de formation pour les femmes sans activité qui transforment des sachets plastiques.
Donc c'est des activités de tissage et de tricotage des sachets plastiques pour faire soit des sacs de course ou des objets de décoration avec. Ça permet à ces femmes de pouvoir faire des produits qu'elles peuvent vendre. Et on a déjà eu à former les femmes des deux camps, le déplacé, Faladje et Sinou.
Sabou Doumbia, elle, participe souvent avec Kumba à ses ateliers de sensibilisation et de formation sur le recyclage des déchets. Il y a 3 ans, Sabou Doumbia a créé une société EcoBuild qui recycle jusqu'à 14 tonnes de plastique.
EcoBuild est né de cette mission et aujourd'hui nous avons pour vision vraiment de promouvoir l'économie circulaire à travers le recyclage des déchets plastiques, surtout proposer des solutions et des matériaux utiles pour la population à des coûts vraiment raisonnables. Aujourd'hui, plus en plus de jeunes commencent à prendre acte sur l'impact de ces sachets plastiques sur l'environnement. Et je pense aujourd'hui, je dirais qu'il y a une amélioration parce qu'il y a une prise de conscience aussi minime que soit-elle qui est en train de se passer actuellement à Bamako. Avec Kumba, on a eu à collaborer sur différents projets. Et plus précisément, c'était tous avec cet objectif d'impact social et environnemental, la responsabilité sociale de la population vis-à-vis de ces déchets plastiques et les sensibiliser aussi à acheter les produits recyclés qui sont peu connus ici sur le marché.
Un travail de recyclage et de sensibilisation des populations à la question environnementale qu'accompagne Georges-Théodore Dougnon avec son ONG Cultural Survival.
Kumba et Sabou, je pense que c'est d'abord le fait d'être des femmes, c'est une très bonne chose. Et lorsque j'ai connu Kumba, je pense que c'est la première dame que j'ai vue en train de transformer les pneus, par exemple. C'était extraordinaire. Et c'est important parce que on a un peu tendance à voir peu de femmes dans ce domaine-là. Et aussi voir un peu le niveau de créativité et d'innovation qu'elles mettent dans leur travail, je pense que c'est bien. Et voir des gens qui sont là, qui font la récupération et la transformation, je pense que c'est bénéfique et ça inspire aussi d'autres personnes.
Sabou et Kumba commencent à mesurer l'efficacité de leur travail de recyclage. Prochaine étape pour Kumba Diakité, mettre au point un procédé de transformation des pneus usagés en granules pour fabriquer des sols souples.
Et l'Afrique en marche avec Frédéric Gara, c'est tous les dimanches dans RFI Matin. Bientôt 8h en temps universel. Et avant de nous dire au revoir, un peu de musique, comme tous les jours, la Française Mira et son nouveau single Des Fleurs, c'est dans la sélection du mois d'RFI.
Pas d'after party, j'ai pris le VTC, les autres sont partis en sucette. Je fais des parties, des chèques dans ma tête, je prends pas souvent parti pour moi-même. Posé en travers du chemin. creux de ta bouche quand on en fait des fleurs, que sur nos bouquets on se couche. Je connais pas la douleur. Elle me connaît, elle me connaît bien. Je connais pas la douleur. Elle me connaît, ouais, elle me connaît.
Sa chanson des fleurs que vous retrouvez dans la sélection du mois d'RFI sur musique.rfi.fr. Voilà, RFI Matin se termine pour aujourd'hui. On dit merci à Christophe Pernet à la réalisation de ces 3 heures. RFI Matin qui revient demain, 5 heures, temps universel. D'ici là, je vous souhaite un doux dimanche à l'écoute de la radio du monde.
À quoi ça ressemble quand des chercheurs trouvent ? À moi, grâce à la recherche, je vis avec le VIH. Mais je dois vivre avec un traitement à vie, une santé plus fragile, des discriminations. On vit, oui, mais on n'est pas guéri. Grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH. En aidant la recherche, on pourra vivre sans. Faites un don à SIDAction sur sidaction.org.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Au Québec, la nouvelle cuisine ne vient pas de la cuisine seulement, mais aussi de la façon dont on accueille les gens à Montréal, nous dit le chef Marco Frappier. La façon dont on fait le service et la cuisine, c'est un tout, c'est beau, c'est unique. Ça donne envie, hein? On s'installe au marché Jean Talon tout à l'heure à 11h30 en temps universel. Voyageurs gourmands, à vos radios.
Le goût du monde, avec Clémence de Navi sur RFI et aussi en podcast sur RFI.fr.